Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je suis heureux de recevoir au micro d'un jour dans l'histoire Laurent Theis. Laurent Theis, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historien, vous êtes également homme d'édition puisque vous avez longtemps travaillé chez Talendier. Aujourd'hui vous êtes aux éditions Fayard et c'est chez cet éditeur que vous avez publié en 2008 une biographie de François Guizot, une biographie qui a reçu un prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Je cite les premières lignes de votre ouvrage. Vous écrivez « Les biographes, le plus souvent, décrivent leurs personnages comme plus contradictoires, plus complexes qu'il y paraît, avec sa part d'ombre et de secret que le biographe, justement, se donne pour mission de dévoiler. À mes yeux, rien de tel ou peu s'en faut pour François Guizot. » Pourquoi une telle affirmation ?
Eh bien parce que François Guizot, me semble-t-il, a placé sa vie sous le signe de la représentation. On pourra en parler dans le domaine politique, du système représentatif, mais d'une façon plus personnelle, il s'est toujours mis lui-même en situation de voir, d'être vu et de se voir étant vu. C'est donc quelqu'un qui, à moins que j'ai mal fait mon travail de biographe, ce qui n'est pas du tout à exclure, c'est quelqu'un qui ne scelle et ne recèle rien. C'est quelqu'un qui est une personnalité profondément extravertie, quelqu'un qui communique dans un sens et dans un autre, qui donne et qui reçoit, et qui ne laisse, qui tient presque à honneur intellectuel et même affectif, de ne jamais considérer comme de ne jamais détenir des secrets ni pour lui-même ni pour autrui. Et c'est donc quelqu'un qui s'est exprimé, qui a passé sa longue vie à s'exprimer sur lui-même, sur les autres, sur le monde et sur le passé. C'est donc quelqu'un sur lequel je n'ai pas trouvé et qui a fait profession lui-même de ne pas cacher ce qui aurait pu être la clé de sa personnalité.
Alors, vous vous êtes engagé dans une biographie, j'allais dire oui, mais parce que votre partie méthodologique, en quelque sorte, c'est non pas, il n'est pas chronologique, il est thématique. Vous présentez Guizot et l'histoire, Guizot et l'enseignement, Guizot et les femmes. Pourquoi également avoir pris cette orientation ?
Eh bien, pour deux raisons au moins. La première, c'est que la vie de Guizot est d'une telle richesse. La production d'archives, à l'origine desquelles il se trouve, est telle qu'il m'aurait fallu un volume au moins trois fois supérieur si j'avais voulu, si j'avais d'ailleurs été capable, de réaliser ce qu'on appelle une biographie à l'anglo-saxonne, où on sait tout, sans d'ailleurs en savoir beaucoup plus que tout. Et une deuxième raison, qui est aussi forte que la première, est que Gabriel de Broglie, présentement chancelier d'Institut de France, a publié en 1990 une biographie de François Guizot chez Perrin, biographie toute académique, naturellement, venant du chancelier, qui n'était pas encore. Et dans ma bouche, il s'agit évidemment d'un compliment, c'est-à-dire qui déroulait François Guizot, pour la première fois pour un public français, dans sa chronologie, dans l'ampleur de sa vie, mais en faisant les sacrifices indispensables, que l'auteur d'ailleurs a lui-même reconnu, puisqu'on ne pouvait pas tout dire sur une telle vie si longue.
Justement, on est impressionné par la masse d'informations et l'étendue chronologique de cette existence, et une existence à une époque qui est peu connue du public français, qui est le 19e siècle. C'est un homme qui traverse le 19e siècle, qui vit sous plusieurs régimes, sur 5-6 régimes.
Vous l'avez dit, c'est une des dimensions de Guizot sur lesquelles j'ai essayé d'insister. Guizot est né en 1787, en octobre 1787, sous l'Ancien Régime, sous la monarchie absolutiste, et lui-même, d'ailleurs, étant protestant, est né sans état civil. Donc, au moment où il est né, il n'a pas d'existence légale. Il ne la trouvera qu'en 1814. Et il est mort en 1874, c'est-à-dire à 87 ans, alors que la Troisième République commençait à pousser des racines profondes. Et entre-temps, il a connu toutes les époques, les régimes successifs, de la Révolution, ils ont été au nombre d'au moins trois, du Premier Empire, des deux Restaurations, de la Monarchie de Juillet, de la Seconde République, du Second Empire et enfin de cette Troisième République qui ne porte pas encore ce nom, puisque c'est en 1875, vous savez, qu'elle a trouvé son fondement constitutionnel.
Alors, je souhaiterais donner à nos auditeurs peut-être quelques repères chronologiques, sans trop s'étendre sur la chronologie, parce que justement, je souhaiterais voir différents aspects, notamment l'aspect de la religion, l'historien et l'enseignant qu'il fut et le rôle qu'il eut dans le développement de l'école, et notamment de la création de l'école primaire. Mais avant quelques éléments chronologiques, quelles sont ses origines ?
C'est un Nîmois d'origine, par ses grands-parents des deux côtés. Aussi loin qu'on remonte dans le nom de Guizot, ou Guizot, on pourra discuter de la prononciation, eh bien, on trouve en effet des artisans qui exercent, notamment dans la soie, dans les tissus, aux alentours de Nîmes, sur les hauts de Nîmes, entre Nîmes et Anduze, pour ceux qui connaissent cette région au nord de Nîmes. Et puis, un grand-oncle, un oncle et un grand-père ont été pasteurs réformés, bien entendu, dans ce qu'on appelle à l'époque le désert, c'est-à-dire l'église clandestine, telle qu'elle se tâche de se maintenir, plutôt mal que bien, après la révocation de l'édit de Nantes de 1685. Mais les Guizot n'ont pas émigré, ni du côté maternel, ni du côté paternel. Ils sont restés là et ont tenu le coup, si j'ose dire, dans leur pays d'origine. C'est donc un bourgeois cévenol, marqué par une première histoire, qui est l'exécution de son père en avril 1794, un père très engagé dans les idées nouvelles et révolutionnaires, mais qui a subi la phase, le couperet jacobin, alors qu'il était lui-même, comme beaucoup de provinciaux, un Girondin déclaré.
Mais alors justement, son père est un Girondin déclaré. Il n'y a pas, de la part de François Guizot, un rejet parce que son père est mort sur l'échafaud. Et il va très vite, non seulement vivre une ascension fulgurante, mais s'orienter vers un certain libéralisme. Et je dis bien un certain libéralisme.
C'est quelqu'un qui a dit, quelque part, je suis de ceux que 1789 a élevés et qui ne consentiront point à descendre. C'est donc quelqu'un qui se proclame enfant de la révolution de 89 et 90. Et c'est en effet elle qui ouvre un jeune bourgeois, provincial, protestant, des avenues, des boulevards, comme on disait à l'époque, dans un sens un peu différent d'aujourd'hui, qui lui ont permis d'accéder à des postes qui sont ça, à une génération précédente, lui serait resté tout à fait inaccessible. C'est dans ce sens que la liberté lui apporte d'abord la liberté de conscience et la liberté de culte, ce qui compte, mais aussi la liberté de l'ascension sociale, puisque l'égalité civile, à laquelle il restera évidemment attaché toute sa vie, a été proclamée et accomplie par les révolutions, par les années 1789-1790. Donc ce libéralisme, il lui vient d'abord de sa propre condition, de sa propre statut. C'est un jeune homme, au fond, émancipé, à qui la vie s'ouvre, parce que la révolution, une certaine révolution, la première révolution, a eu lieu. Et deuxième élément de son libéralisme, c'est le fait que très tôt, parce qu'il est protestant peut-être, certainement parce qu'il passe les années de son adolescence à Genève, qu'il est ouvert à un certain cosmopolitisme intellectuel, et notamment à des influences anglaises qui l'accompagneront toute sa vie. Et il recherchera, comme son ami Victor de Broglie, comme d'autres, à faire comprendre, à adapter le régime britannique, le parlementarisme britannique, à une France qui en réalité n'en voudra jamais vraiment.
C'est-à-dire qu'il s'engage dans une carrière politique vouée à défendre la monarchie constitutionnelle ?
Il ne commence pas par la politique. Il a lui-même décrit, parce que c'est un esprit organiciste et organisé, il a décrit sa vie en trois étapes. La première, consacrée à l'histoire, comme professeur. La seconde, consacrée à la politique, comme député et comme ministre. Et la troisième, vouée à la religion, dont nous parlerons, je crois, dans quelques instants. Il commence par l'histoire, mais toute sa vie, et c'est un des éléments d'unité de cette existence, Guizot a été saisi, non pas par le virus, mais par la libido, je ne trouve pas de terme meilleur, par la libido politique. C'est quelqu'un qui, comme il l'a dit une fois, aime le pouvoir parce qu'il aime la lutte. C'est un lutteur, c'est un jouteur, intellectuel d'abord, comme historien, et comme journaliste, et comme essayiste, et comme opposant à la Restauration, progressivement. Et puis, c'est un historien qui va chercher, au fond, une justification de ses idées dans des études historiques qui, pour la première fois, revêtent un caractère vraiment scientifique.
C'est un personnage vraiment très, très complet hein, qui ressort. Et au fond, ce n'est pas étonnant de le voir arriver à l'Institut.
Il sera le seul, je crois le seul, au XIXe siècle, le seul membre des trois académies, des trois classes de l'Institut, Académie des sciences morales et politiques pour commencer, des inscriptions et belles lettres ensuite, de l'Académie française enfin en 1836. Et en effet, la voie académique au sens large lui a été ouverte. Académique, parce qu'il est devenu, alors que rien ne le destinait à ça en 1812. Il est nommé à 24 ans professeur à la faculté des lettres pour une chaire d'histoire moderne qui est créée pour lui. Et il devient, par son génie propre, le plus grand, un des plus grands, les classifications sont difficiles, un des plus grands historiens en tout cas, français, européen, mondiaux dans les années 1812-1830. Et c'est donc au fond par l'histoire qu'il entre en politique. C'est au fond la vérification de ses idées qu'il fait par le biais de l'histoire, à un moment où l'histoire, où la prise en considération du passé collectif français a évidemment une charge idéologique bien plus grande qu'elle ne l'a aujourd'hui. Que fait-on de l'ancien régime ? Que fait-on de la Révolution quand on est un jeune bourgeois qui, en 1812, à 25 ans, devient professeur ?
Quel est précisément le rôle politique, notamment dans l'enseignement de François Guizot ? Cher Laurent Théis, c'est ce que nous allons voir dans un instant.
Le maestro Rostropovitch, violoncelliste et chef d'orchestre, membre associé étranger de l'Académie des Beaux-Arts, nous avait reçus au printemps 2006 dans ses appartements parisiens. Il nous a parlé de musique russe et de création contemporaine. Il raconte son amitié avec Shostakovitch, Prokofiev et Dutilleux. Il commente l'évolution de l'école russe de violoncelle et il explique sa façon de choisir ses instruments et de diriger un orchestre. Cet entretien exclusif est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à François Guizot. Je reçois au micro de Canal Académie Laurent Théis. Vous avez publié aux éditions Fayard une belle biographie, une grande biographie de ce personnage qui est peu connu en France. Et j'allais dire, c'est malheureux parce que tous les matins, des millions de Français vont conduire leurs enfants à l'école primaire. Et cette école primaire, ils la doivent à un certain François Guizot. C'est la fameuse loi de 1833. C'est une loi qui entre donc dans le cadre de son action politique que nous avons présentée au cours de cette première partie d'émission. Que pouvons-nous dire, Laurent Théis, sur cette loi ?
François Guizot est devenu ministre de l'Instruction publique dans le nouveau régime de Louis-Philippe. En 1832, il a conservé ce portefeuille presque continuellement jusqu'en 1837, donc plus de 5 années qui lui ont permis, en effet, d'installer ce qui existait déjà à l'état dispersé, c'est-à-dire un enseignement primaire public. Il existait des écoles communales, naturellement, mais qui étaient tenues, qui ne bénéficiaient d'aucun statut. Et vous savez à quel point le statut compte dans notre société française, on le vérifie tous les jours. Et François Guizot, parce que c'est un libéral qui a un sens de l'État. Je ne dirais pas que c'est un jacobin dans l'exercice du pouvoir, mais enfin c'est plutôt un centralisateur, quelqu'un qui estime utile, autant qu'il l'aime, savoir ce qui se passe dans les provinces, dans la France tout entière, dans le royaume des Français, en matière en particulier d'éducation. Lui-même ayant été formé à Genève, comme nous le disions tout à l'heure, c'est là qu'ont conflué beaucoup d'idées pédagogiques, on connaît encore aujourd'hui les noms de Pestalozzi ou d'autres, ou du couple Necker, qui ont développé des préoccupations pédagogiques qui ont beaucoup imprégné l'esprit de François Guizot et d'ailleurs de son épouse qui a tenu un grand rôle dans sa vie, ses deux épouses successives. Et lorsqu'il accède au ministère de l'Instruction publique, après avoir été ministre de l'Intérieur, le ministère qui toujours lui aura le plus plu, notamment peut-être parce qu'il a dans sa dépendance à l'Institut de France, eh bien, il se met en devoir, au fond, d'appliquer ce qui lui a réussi à lui, c'est-à-dire, jeune bourgeois, d'acquérir par son seul effort, par son seul mérite, des lumières suffisantes pour accéder aux plus hauts emplois. Et il pense que, au fond, le libéralisme politique n'a pas mieux à faire que d'élever jusqu'à lui le maximum de jeunes gens et de jeunes filles, on parle moins des jeunes filles, mais il en tenait compte quand même, de les élever vers cet âge de raison, au sens propre et au sens figuré, qui leur permettra au fond de fonder le libéralisme politique en France, la monarchie constitutionnelle, puisque la monarchie constitutionnelle, dans son esprit, est fondée sur l'exercice de la raison politique, et la raison elle-même ne s'acquiert qu'avec un minimum de savoir acquis dans ces jeunes années. C'est donc un projet à la fois pédagogique, mais qui n'est beaucoup plus politique que social. Il s'agit au fond d'élever le niveau intellectuel, le niveau d'enseignement des Français, sans non plus, il faut avoir des limites, des réserves, sans non plus le porter à un trop haut degré de fermentation qui le conduirait vers le retour des excès révolutionnaires. C'est donc le fondateur, par cette loi de juin 1833, de l'école publique. Chaque commune est tenue d'ouvrir une école, d'entretenir un instituteur, et chaque département est tenu d'ouvrir une école normale d'instituteur, de sorte que entre 1832 et 1848, fin du régime de Juillet, on peut dire que le nombre d'écoliers en France a été multiplié par 2,5. Et quand ça porte sur des effectifs si énormes, on voit à quel point cet effort a été couronné de succès. Et d'ailleurs, Jules Ferry et beaucoup d'autres ont reconnu, et c'est l'héritage de Guizot, je crois, qui a été unanimement reconnu, même par ses adversaires politiques. Cette loi a été adoptée sans guerre d'opposition.
Voilà. Il y a, au-delà de cette question de raison, il y a aussi la moralité. La moralité est très importante dans l'œuvre de François Guizot, et on le verra d'ailleurs plus tard avec la question religieuse.
Alors, la morale, au sens François Guizot est un de ceux qui ont lu les philosophes allemands assez tôt. Il a lu Kant, par exemple, à une époque où personne ne le lisait. Vous savez que la critique de la raison pratique, on ne va pas s'étendre là-dessus, était le grand ouvrage moral d'Emmanuel Kant, qui a connu des résumés que Guizot connaissait bien. Et ayant constaté, comme historien et comme politique, à quel point la société française avait été menacée de dissolution tout au long de la période qui commence en 1789 et qui aboutit à la révolution de 1830, qu'au fond, un des liens sociaux les plus puissants pouvait être la morale fondée sur l'éducation. L'éducation morale, qui est d'ailleurs le titre d'un livre qu'a écrit sa femme. Et donc, pour lui, la morale est inséparable de la pédagogie, des acquis du savoir. Mais une morale qu'il ne faut pas penser comme étant une morale religieusement définie. C'est au fond cette loi morale kantienne qui fait qu'il ne faut pas faire aux autres qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse, et qu'il faut faire en sorte que la morale, que la maxime de l'action, soit celle qu'on pourrait appliquer à la totalité de l'univers. Autrement dit, respecter les situations acquises et ne les transformer, si nécessaire, que par l'exercice d'une force qui doivent tout à l'esprit et rien à la puissance.
Alors je le cite, le développement intellectuel séparé du développement moral et religieux devient un principe d'orgueil, d'insubordination, d'égoïsme et par conséquence de danger pour la société. Nous sommes à une époque où la religion reste une donnée importante dans l'enseignement, dans l'instruction.
La religion garde un rôle important dans l'instruction, je dis la religion au sens large, puisque vous le savez, l'État, à partir de 1830, n'est plus un État confessionnel. Il n'y a plus de religion d'État. Il y a une religion de la majorité des Français qui figure dans la charte, dans la Constitution. Et donc, la religion, si vous voulez, imprègne la société, non pas dans ses dogmes, mais dans ses comportements et dans ses croyances fondamentales. C'est-à-dire l'existence d'un paradis et d'un enfer, l'existence du juste et d'injuste, du bien et du mal, et qui doivent orienter les comportements hors de cette boussole. À quoi aboutissons-nous ? Eh bien, de très mauvais souvenirs pour François Guizot, 1793-94, l'époque de l'éradication de la religion, ou ce qui se passe dans d'autres sociétés où le christianisme n'a pas pénétré. Donc l'idée, au fond, que la religion, la morale religieuse, crée le consensus que la division sociale ou la division politique lui-même n'arrive pas à créer, eh bien, fait qu'il faut l'inculquer aux jeunes gens dès leur naissance, dès leur plus jeune âge. Donc l'éducation, l'instruction publique prend place dans un effort général d'éducation qui porte aussi sur d'autres éléments de la vie publique que Guizot, comme ministre, aura à cœur d'organiser, notamment l'organisation d'une mémoire nationale qui, elle aussi, réunit ces Français dans une considération commune de leur passé.
Nous sommes sur l'histoire, sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. Mais peut-être un dernier mot sur l'enseignement. Nous avons parlé du primaire, mais ce que vous appelez les moyens, le secondaire et les supériorités, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, n'est pas négligé. D'ailleurs, Guizot est un des précurseurs de Sciences Po.
Eh bien, en effet, en 1871, sauf erreur, deux jeunes gens, dont Émile Boutmy, dont le nom est révéré toujours rue des Saint-Pères, eh bien, sont venus voir Guizot, lui ont demandé au fond des lettres de patronage pour fonder ce qui était alors la faculté libre des sciences politiques, qui est devenue Sciences Po. Donc l'éducation l'a toujours intéressé. Sur l'enseignement secondaire, il a moins bien réussi parce que, dans les années 1840, la division entre les ordres religieux, qui étaient pour la plupart interdits en France, suite à la Révolution et à l'Empire, et même à la Restauration, le conflit entre l'institution religieuse, ecclésiastique, et la bourgeoisie voltairienne, restait encore extrêmement violent. Et quand il s'agissait de former les futures élites, l'école primaire, il fallait que le peuple, en effet, soit éclairé. Mais quand il s'agit de l'enseignement secondaire et supérieur, là où vont se recruter les agents de l'État, les supériorités en tout genre, alors l'idéologie a frappé très fort. Et Victor Cousin, par exemple, qui était le collègue de François Guizot à la Sorbonne, a tenu tête à son ami Guizot pour défendre le monopole universitaire, et quand je dis universitaire, ça porte aussi sur l'enseignement secondaire, face aux tentatives de faire des écoles chrétiennes, face aux tentatives aussi des nouveaux ordres religieux qui se créent pour répandre l'enseignement. Là, si vous voulez, la coupure des années 1790-1815, cette laïcisation de l'État, n'a pas permis de faire pour l'enseignement secondaire ce qui a été réussi pour l'enseignement primaire. Donc, le nom de Guizot est attaché à l'enseignement primaire, à la création aussi d'écoles de filles facultatives, mais tout de même à une forme de gratuité, puisque 40% des enfants sont en fait subventionnés dans leurs études, même si ce ne sont pas gratuites, à une forme d'obligation, puisqu'on publie les listes des parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, et enfin à un statut de l'instituteur qui est reconnu, avec les prérogatives qui s'y attachent, comme fonctionnaire de l'État, ce qui est la première fois, et enfin, parce que c'est la mémoire qui nous hante, la création du corps des inspecteurs primaires qui ont joué un si grand rôle, en particulier sous la Troisième République. De sorte que les dirigeants de Second Empire et surtout de la Troisième République, les premiers, sont des enfants naturel et spirituel de François Guizot.
Alors passons à l'histoire. Entre l'enseignement et l'histoire, il y a une constante chez Guizot, c'est l'idée de transmission, elle est bien présente. Mais au-delà, vous ouvrez votre chapitre sur la question de l'histoire en liant l'enseignement académique de l'histoire à l'expérience même personnelle de Guizot, qui tient à entretenir le souvenir des ancêtres, le souvenir de sa propre famille, etc. Cet aspect est vraiment intéressant chez lui.
Eh bien, au fond, Guizot, sans le formuler ainsi, est un des artisans de la liaison des noces, souvent difficiles, on le voit encore aujourd'hui, entre l'histoire et la mémoire. On le voit à propos des lois mémorielles dont on parle si souvent aujourd'hui. Et c'est quelqu'un, au fond, qui, face à la division de la société, dont je le répète, il est obsédé, dont il est véritablement obsédé pour l'avoir vécu dans sa propre chair. Eh bien, la division sociale, la désintégration de la collectivité nationale peut être soignée, peut être même stoppée, si on plonge aussi loin que possible dans ce qui est commun dans l'histoire. Et c'est pourquoi François Guizot est un de ceux qui, sans avoir de spécialité particulière, parce qu'il est entré, il a été nommé professeur un jour d'avril, et il a fait son premier cours en juillet, alors qu'il n'avait pas du tout sa spécialité, il n'avait pas encore 25 ans. Eh bien, il a compris à quel point le Moyen-Âge, au sens large du terme, mais notamment ce beau Moyen-Âge des 11e, 14e siècles, était là où se trouvaient les racines qui permettaient de concilier la naissance de la bourgeoisie, le rôle d'une féodalité domestiquée et l'importance de l'État royal. Et donc, il a été un de ceux, avant Augustin Thierry, son ami, avant Michelet, qui a été son élève avant de se séparer de lui, il a compris avant eux à quel point, dans le Moyen-Âge, mais dans un Moyen-Âge qui n'est pas un Moyen-Âge de troubadour, de pacotille, dans un Moyen-Âge scientifique, dont d'ailleurs il a publié les sources comme éditeur, il y avait là des éléments à trouver pour fonder une nation qui surmonte ces divisions idéologiques et politiques. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, par tempérament, parce qu'il a un tempérament personnel aussi, est très sensible à l'usure du temps et à la mémoire. C'est quelqu'un qui voudrait retenir le temps des êtres chers qu'il a perdus, il en a perdu beaucoup, qui lui-même supporte mal de vieillir tout en vieillissant magnifiquement, et qui tient au fond le fil du temps pour, au fond, le fil du développement des sociétés, mais aussi le fil rouge des individus.
Vous écrivez « Le besoin d'histoire qui s'affirme partout grandissant autour des années 1820 procède d'une exigence et d'une frustration. »
Alors, en effet, à ces jeunes gens qui sont nés juste avant, pendant la Révolution. Les grands événements, la Révolution et l'Empire, se sont accomplis sous leurs yeux, mais sans eux. Et les questions qui se posent à tout le monde, à Augustin Thierry, à Saint-Simon, à Lacordaire, à Montalembert, à Victor de Broglie, à Molé, etc., c'est que faire de ce qui s'est passé entre 1789 et 1815 ? Qu'en faire ? On ne va pas recommencer, au contraire, conjurons ces forces maléfiques qui nous ont entraînés à Waterloo et avant à l'échafaud, eh bien, faisons-le en essayant de comprendre que nous est-il arrivé. Et pour savoir ce qui nous est arrivé, naturellement, c'est Tocqueville qui a mieux réussi, en montrant à quel point, au fond, dans l'Ancien Régime se trouvaient déjà les ferments de la société de 1820 et comment la société de 1820 n'est pas très différente de celle de 1780. Donc, que nous est-il arrivé à nous ? Un bilan, un constat, c'est cette exigence. Et ensuite, avec cet héritage inventorié, rationalisé, approprié, que pouvons-nous faire ? Que nous reste-t-il à faire ? Eh bien, à fonder, c'est l'espérance, à fonder une société qui soit stable, consciente d'elle-même, qui aille à pas très compter, vers le progrès et vers l'épanouissement.
Mais alors, c'est très important parce que pour cultiver cette espérance, l'histoire a un rôle. Et c'est ce qui est intéressant dans l'œuvre de Guizot, c'est qu'il lie l'histoire, l'enseignement, sa connaissance, etc., à la politique.
Voilà. Alors, je crois qu'il le fait d'une manière très originale parce que, il le dit lui-même, mais on n'est pas obligé de le croire sur parole, il dit lui-même que pendant ses cours, eh bien, il faisait abstraction de la politique. Mais en même temps, je crois que c'est quelqu'un qui a réussi à articuler, au fond, la pratique politique et le travail historien. C'est-à-dire que son travail d'historien, que ce soit ses travaux très importants sur les origines du gouvernement représentatif, que ce soit surtout sa double histoire de la civilisation en Europe et de la civilisation en France, c'est lui qui fonde le concept d'histoire de la civilisation comme objet d'histoire, eh bien, sont indiscutables. Je veux dire, Karl Marx était perdu d'admiration face au cours de François Guizot, comme le sont aussi des hommes de droite. Au fond, sa légitimité scientifique, savante, est indubitable et il en a prodigué des exemples tout au long de sa vie. Son histoire de la Révolution d'Angleterre est encore une lecture obligatoire à l'Université d'Oxford aujourd'hui. Et en même temps, il voit bien, et nous voyons bien à quel point, mais surtout à cette époque-là, la politique et l'histoire ont partie liées. Car de ce qu'a été notre passé ressortent des lignes de force, lesquelles sont à retenir, lesquelles sont à écarter, lesquelles surtout sont à combiner, à partir aussi d'exemples étrangers. C'est par l'histoire, c'est par sa connaissance de l'histoire, c'est par sa réflexion sur le mouvement des sociétés que l'on pourra ensuite gouverner une nation elle-même. Si l'on sait comment une société fonctionne, quels sont ses ressorts, pas seulement matériels, mais également intellectuels, et idéologique, et c'est pourquoi François Guizot, et c'est là qui m'a beaucoup plu aussi, moi qui suis aussi un ancien Sorbonnard, il s'intéresse aux mœurs, aux idées, à la façon dont les gens mangeaient, rêvaient, se comportaient, autant qu'à savoir combien valait la gerbe de blé ou quelle était la taille des fiefs dans la basse Bourgogne de cette époque.
Vous le disiez, on admire son cours, d'ailleurs on fait la queue pour assister à ses cours. Il y a bien évidemment une œuvre littéraire que vous présentez de manière très précise, vous montrez toute l'équipe qu'il crée pour étudier l'Angleterre avec une équipe de traduction, de reprise de textes, etc. On pourrait s'attendre à voir Guizot se pencher exclusivement, je dis bien exclusivement, sur la Révolution française. Pourtant, il ne le fait pas. C'est étonnant. En revanche, et ça rejoint ce que vous dites sur l'espérance politique, sur la volonté de fonder et d'enseigner pour recréer la société, pour régénérer la société, il travaille sur cette société anglaise qu'il admire beaucoup, sur la politique anglaise qu'il admire beaucoup et la révolution donc anglaise.
Eh bien, en réalité, me semble-t-il, et ça apparaît dans beaucoup de ses écrits, ce qui l'intéresse, ce qui l'obsède, c'est la Révolution française. Mais pense-t-il, juge-t-il, je n'aurai pas la bonne distance pour m'exprimer tout à fait. Pour savoir quel est le sens profond de cette révolution, je reviens à cette question, que nous est-il arrivé ? Eh bien, il faut aller chercher, soit dans l'antériorité, soit dans la comparaison. Et la révolution anglaise avait ce double mérite. D'une part, elle s'était produite un siècle et demi avant la révolution française, et d'autre part, elle a vu son prolongement par une deuxième révolution qui l'intègre à la première, qui est la révolution américaine. Et donc, il a trouvé dans la révolution d'Angleterre, suivie par la révolution américaine, dans Cromwell et dans Washington, eh bien, de quoi filer la métaphore ou de quoi construire l'analogie, tout en respectant les différences, avec la révolution française. Et il n'est pas le seul à le faire. Beaucoup produisent à cette époque des histoires de la Révolution, s'intéressent à la Révolution d'Angleterre, Chateaubriand premier d'ailleurs, pour essayer d'expliquer ce qui est arrivé en France et pourquoi, c'est d'ailleurs le titre d'un essai qu'il a écrit, publié en 1850, pourquoi la Révolution d'Angleterre a-t-elle réussi et pourquoi la nôtre, ça il ne l'explique pas comme ça, mais pourquoi la nôtre, elle, n'a pas réussi et ne cesse de se renouveler en balbutiant. On a vu 1789 qui a dégénéré en 1794, on a vu ensuite l'Empire s'installer, on a vu la Révolution de 1830, on croyait avoir atteint, sinon la fin de l'histoire, tout au moins un régime stabilisé. Voilà 1848 qui apparaît de façon, pour lui, inexplicable, même s'il y a certainement des explications, mais là il est mal placé pour en parler, puisque la Révolution de 1848 l'a écarté. Eh bien, pourquoi une révolution réussit ou échoue ? Eh bien, celle de 1788, de 1749-1788 en Angleterre, a réussi. On va essayer de savoir pourquoi.
Alors, c'est une époque où s'opposent, sur le plan des études de l'histoire, sur le plan historiographique tout simplement, s'opposent les fatalistes et les accidentalistes. Comment se situe Guizot qui, on lui a beaucoup reproché d'avoir une conception trop logique de l'histoire ?
Alors, les fatalistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que tout est écrit, au fond que l'histoire se déroule, soit sous l'action de la Providence, soit par des causes mécaniques qui entraînent infailliblement d'un point à un autre selon une trajectoire à laquelle on ne peut pas échapper. Et puis les accidentalistes qui font la part des choses, le fait que peut-être Cromwell s'est étranglé avec un grain de raisin, ça a peut-être changé beaucoup de choses. Le nez de Cléopâtre. Alors, les accidentalistes disent que Guizot est un fataliste et les fatalistes disent que Guizot est un accidentaliste. Et en réalité, il s'en explique lui-même. Il a écrit des pages très intéressantes sur le rôle des grands hommes dans l'histoire. Et il montre comment un des grands hommes, il prend l'exemple de Charlemagne, de Cromwell, de Washington et de Napoléon.
Il n'y a pas beaucoup de grands hommes chez Guizot.
Il y a très peu. Il n'est pas porté, si vous voulez, ce n'est pas quelqu'un qui soit sensible à la gloriole, qui soit sensible à l'apparence, qui soit sensible surtout à la démesure. Et donc, il admire le premier Louis XIV et il voit les défauts du second. Il admire le premier consul et pas l'empereur. Il voit chez Cromwell une dérive à la fin de sa vie qui pouvait l'entraîner très loin s'il n'était pas mort plus tôt. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt quand même un fataliste en ce sens qu'en s'interrogeant sur les causes, sur un faisceau de causes, on arrive à dégager une ligne historique qui évite de faire simplement un récit linéaire où les choses se suivraient les unes les autres sans, dans son histoire. Il fait toujours des étapes, des récapitulatifs. Voilà, nous en sommes dans l'explication, dans le cheminement. D'autres voies pouvaient s'ouvrir, mais l'ensemble des forces intellectuelles, spirituelles, matérielles ont conduit la société à s'engager dans cette voie-là, qui n'est pas la seule. Il y a toujours une alternative. mais ça n'est pas à la merci, si vous voulez, c'est pas une bataille. Waterloo est une défaite, et si Waterloo était gagné, ça aurait quand même été une défaite parce qu'il y aurait Waterloo bis. Donc on n'est jamais à la merci d'une bataille, d'une existence personnelle, d'un fait particulier. Ces faits particuliers, ces expériences personnelles prennent place eux-mêmes dans un ensemble logique, mais d'une logique qui n'est pas implacable. Ça n'est pas du tout un matérialiste.
Nous nous retrouvons, Laurent Thaïs, dans un instant.
Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à François Guizot. Nous avons largement vu le rôle politique dans le cadre de l'enseignement de François Guizot. Nous avons également abordé l'historien. Je souhaiterais, Laurent Thaïs, aborder Guizot et Dieu. Et je vous disais avant cette émission, Guizot est très attachant parce que Guizot est protestant. Mais alors, il a une position en un siècle de lutte religieuse très intense, il a une position vraiment originale.
Alors, Guizot part d'un point qui ne sera jamais remis en cause chez lui. Il est ancré identitairement dans la religion réformée, pas protestant comme ça. Il est dans la réformée, dans cette église du désert. C'est un enfant des Camisards. Ses parents, ses ancêtres ont été arrêtés, certains condamnés à l'exil, d'autres aux galères. Il fait partie, si vous voulez, de ces Cévenols pur jus, taillés, au fond, dans le bois de leurs châtaigniers ou de leurs oliviers. Et cela, il n'y renoncera jamais. C'est un fils de la Réforme. Il a écrit deux fois une biographie de Calvin, auquel il reconnaît des mérites éminents, sans en faire du tout un saint à l'égal de ce qui existe dans d'autres églises. C'est un calviniste autant qu'on peut l'être. Calviniste beaucoup plus de comportement et d'état d'esprit que de dogme. C'est quelqu'un qui, comme protestant, n'est pas dogmatique. Mais il faut savoir que, surtout dans le premier 19e siècle, la dogmatique n'est pas le fort des protestants. Ils récupèrent des positions sociales qu'ils avaient perdues pendant deux siècles. Ils récupèrent une existence légale. Ils se réorganisent comme ils le peuvent en paroisse. Et Guizot, là, joue son rôle de protestant engagé. Il est membre du consistoire de l'Église réformée de Paris de 1815 à 1874. C'est quand même un très long bail. Il fait partie de toutes sortes de sociétés protestantes qui sont très vigoureuses. Mais, pour lui, il n'y a pas de mais. Mais il y a une contradiction néanmoins qui a été observée par l'extérieur, qui lui a été violemment reprochée. Comme historien, il sait que la France, sans être toute catholique, est une nation catholique. Il a d'ailleurs aussi écrit une biographie de Saint-Louis. Et qui est ancrée dans cet héritage-là, pas du tout pour des raisons dogmatiques, mais pour des raisons de civilisation. Et comme il le dit sans le dire, si j'étais né à Madrid, je serais catholique et au fond très content de l'être. Si j'étais né à Édimbourg, je serais protestant, presbytérien, très content de l'être. Je suis né à Nîmes, je suis un protestant, j'y tiens et je m'y sens bien. Mais pour lui, le phénomène chrétien l'emporte sur les divisions confessionnelles. Et en libéral d'esprit, en moraliste de comportement et en politique avisé, ou du moins le croit-il, il estime que face à la montée de l'anarchie, de ce qu'on appelle à l'époque la démocratie, de ce qu'on commence à appeler le communisme, le matérialisme et, de façon générale, l'athéisme, il faut que les chrétiens fassent cause commune. Et donc, les Français étant majoritairement catholiques romains, eh bien, il faut aider au sein de l'Église catholique, elle en a bien besoin, il le reconnaît, et en effet, elle en a bien besoin, il faut aider ceux qui penchent du côté de la liberté, de conscience, de culte, pour les autres, naturellement pour eux-mêmes, et qu'on pourrait être engagé au fond dans ce mouvement d'éclairage, de ce mouvement de développement de la société française.
Mais justement, vous parlez de liberté de conscience, liberté de culte, à une époque où Rome condamne cette liberté de conscience, condamne cette liberté religieuse, Guizot apparaît comme un précurseur du Concile Vatican II même. En revanche, on le voit défendre le pape à des moments de l'histoire très polémiques.
Ça lui a valu d'ailleurs de la part des éco-religionnaires l'appellation de pape des protestants, ce qui n'était nullement. C'était simplement le premier président du Conseil depuis Sully, protestant. Donc c'était un retour des protestants éclatant dans la sphère publique. Mais lui-même, pour les raisons que je viens de vous dire, s'emploie à détecter chez les catholiques ceux qui sont prêts face à l'ultramontanisme romain, face aussi à la religion qui souhaitait associer le sceptre et l'autel, eh bien de faire entrer des ferments de liberté dans l'Église catholique. Et c'est pourquoi il est devenu l'ami du père Lacordaire. Il n'a pas suivi Lamennais longtemps, ou plutôt Lamennais n'a pas suivi longtemps, parce qu'il est passé du côté, au fond, des révolutionnaires. Mais Lacordaire, Montalembert, Albert de Breuil, d'autres moins connus, comme Carnet, comme Falloux, sont devenus ses amis. C'est lui qui les a attirés à lui-même pour voir ensemble ce qu'on pouvait faire de cette vieille Église catholique, souvent vermoulue, engoncée dans des dogmes qui en écartaient absolument tous les acquis sociaux, politiques, intellectuels depuis 50 ans, et comment on pouvait essayer, au fond, de soutenir ce qu'on a appelé le libéralisme catholique, des catholiques libéraux qui n'ont jamais formé qu'une toute petite minorité au sein de l'Église catholique et que Vatican Ier a complètement, assassiné.
Je cite François Guizot, « Je désire sincèrement le progrès et la vie forte de l'Église catholique. La France ne deviendra pas protestante. Je souhaite qu'elle redevienne catholique pour être chrétienne. » Il n'y a pas de prosélytisme chez Guizot.
Mais on lui a même reproché le contraire. Parce que dans les années 1830-1840, les églises protestantes, régénérées par un mouvement qu'on appelle le réveil, je ne veux pas m'étendre beaucoup là-dessus, gagnent des positions que perdent les catholiques. Il y a des conversions individuelles qui sont montées en épingle et qui sont à l'avantage des réformés. Et puis il y a surtout, une imprégnation de protestantisme diffus au sein des élites qui ne sont pas très engagées religieusement. Autrement dit, la liberté de conscience qui est un acquis récent, la liberté de culte qui n'est pas encore pratiquée jusqu'en 1830, qui n'est pas complète. L'exercice de la raison, la découverte du savoir scientifique qui vient de Genève, qui vient de Grande-Bretagne, le mouvement d'émancipation politique, le système représentatif, la démocratie parlementaire qui se forme, tout cela, ce sont des idées qui ont partie liées historiquement avec certaines formes de protestantisme. De telle sorte que bien des protestants, dans les années 1830-1840, voient la société se décatholiciser et se disent, avec les valeurs que nous proposons, le protestantisme peut gagner des positions, peut-être un jour majoritaires. Les catholiques le craignent, certains protestants commencent à s'en vanter. C'est une illusion pure, mais qui est utilisée. Et c'est pourquoi, quand Guizot écrit ce que vous venez de lire, je crois qu'il l'écrit en 1838, dans un article resté célèbre, du catholicisme, du protestantisme et de la philosophie en France. Je pense que cet article-là, mais en tout cas, Guizot se répète toujours, donc il n'a pas lieu de dater ses interventions, mais il reçoit des injures, des bordées d'injures de ces corrigeurs protestants, en disant « Vous êtes en train de faire le lit du catholicisme, et alors nos ancêtres massacrés, les Camisards, les Galériens, tout ça, l'affaire Calas, c'est rien pour vous. C'est rien, vous préférez le pape, vous préférez l'Inquisition, vous êtes en train de faire revenir le père Lacordaire, vous l'autorisez à prêcher à Notre-Dame en froc, vous l'admettez, vous le faites élire à l'Académie française, premier moine. »
Vous décrivez toute cette accession à l'Académie française.
Quelle est cette trahison? Et Guizot répond assez sereinement, vivement, « Je suis là, nous sommes protestants, nous le resterons. La France ne deviendra pas protestante, elle restera catholique, mais les protestants y ont toute leur place. Mais, mes chers coreligionnaires, l'urgent, c'est de faire face à la déchristianisation et aux forces de démantèlement de la société qui reposent sur des valeurs chrétiennes, même si les dogmes ou même si la foi chrétienne ne sont plus ce qu'ils étaient. »
Vous terminez votre ouvrage par un poème qu'il a écrit sur la Vierge Marie. On sait quelle place la Vierge Marie a dans la religion protestante. C'est au-delà, c'est une réelle sensibilité qu'a Guizot.
Je ne trouve pas de meilleure expression que de faire un petit salut, qui n'est pas un pied de nez, dans la dernière page de mon ouvrage. Bon, d'abord, rassurons ceux qui nous écoutent. La Vierge Marie, dans le dogme protestant, a toute sa place comme mère vierge du Christ. La seule différence, c'est qu'on ne pense pas qu'elle soit restée vierge après la naissance du Christ et qu'elle a eu, comme le disent les Écritures, d'autres enfants. Bon, peu importe. Mais cette sensibilité-là, c'est parce que Guizot a été l'admirateur éperdu de Chateaubriand. Qu'il a écrit 4 articles dans une revue de l'époque sur le génie du christianisme, qu'il a lui-même d'ailleurs fait rééditer en 1860, je crois, avec une préface de lui, préfaçant Génie du christianisme, qui pour lui représente, au fond, la raison et le cœur réconciliés. Et ce poème à la Vierge Marie est une sorte de démarquage, pas forcément très brillant, mais je trouve assez joli aussi, de ce que pouvait écrire, penser Chateaubriand et les petits Chateaubriands qui faisaient cercle autour de lui. Ça doit donc beaucoup à la sensibilité, un moment romantique de Guizot, car Guizot aussi a des qualités de cœur, a une affectivité parfois refoulée, mais quand on cherche bien, on la trouve assez vite, et ce petit poème participe un peu de cette sensibilité.
Eh bien, c'est sur cette sensibilité que nous allons nous quitter, Laurent Thaïs. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Merci de votre accueil.
Je rappelle donc les références de votre ouvrage, votre biographie, la biographie de François Guizot, parue aux éditions Fayard. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.